Le 18 août, il mouille sur Montréal en ce moment. C'est Kevin Breton au micro pour M l'été, en compagnie de mon bon ami Mathieu, que je suis bien heureux de retrouver aujourd'hui à la mise en onde. Effectivement, il pleut aujourd'hui, mais on a quand même une belle émission pour vous pendant la prochaine heure. Il sera notamment question du retour à l'école, et ça tombe bien parce que j'ai l'impression, en fait, que ce type de température-là, ben, ça correspond ou ça signifie le retour sur le banc d'école, et notre chroniqueuse Agathe sera ici aujourd'hui pour nous parler de l'arrivée en maternelle pour les tout-petits. Ce sujet dans un instant sur Canal M. Mais avant tout ceci, hein, parce qu'on va avoir également d'autres entrevues, on va notamment aller faire un petit tour du côté de la région de Chaudière-Appalaches, d'où je suis originaire. Mais avant tout ceci, ben, je veux quand même vous lire quelques nouvelles qui ont retenu notre attention à moi ou encore à notre recherchiste, Sylvie, que je remercie d'ailleurs. La première nouvelle, elle est tirée de Radio-Canada, puis je pense qu'elle va vous intéresser. En fait, le titre, c'est « L'Alberta contre les maladies de la rétine ». Donc, l'Alberta offre à présent plus d'options aux Albertains qui souffrent de perte de vision. Le gouvernement a en effet élargi son programme qui couvre le coût des traitements contre la dégénérescence maculaire et les autres maladies de la rétine. C'est un texte du journaliste Mario de Chicchio. Depuis début août, l'utilisation du médicament Eylea est couverte par le programme de l'Alberta. Eylea est une injection qui sert à traiter les troubles de la vision causés par des maladies de la rétine. Il s'ajoute donc à la liste des médicaments déjà couverts par le gouvernement. Depuis 2015, les services de santé de l'Alberta paient la facture de deux autres médicaments similaires. Il s'agit de l'Avastin, un médicament dont l'utilisation pour contrer les maladies de la rétine n'est pas officiellement approuvée par Santé Canada, mais qui coûte généralement 50 $ par traitement. L'autre médicament est Lucentis, dont chaque traitement coûte en moyenne 1 000 $. On sait effectivement que c'est peu abordable, ces technologies-là ou ces nouveaux outils mis à la disposition par la science, surtout que des fois, ben, l'efficacité n'a pas encore été prouvée. Les coûts de ce nouveau médicament là, qui est remboursé, l'Eylea, sont aussi estimés à environ 1 000 $ par traitement. Les trois médicaments sont sensiblement similaires et ont la même utilité, selon l'ophtalmologiste et le président de la Société canadienne de la rétine, Amin Kerani. Cependant, comme bien des médicaments, certains traitements fonctionnent mieux que d'autres selon le patient et sa condition. En Alberta, les spécialistes de la rétine travaillent avec le gouvernement pour rester prudents avec les prix, explique l'ophtalmologiste. C'est pourquoi nous essayons de traiter avec l'Avastin lorsque possible. Selon lui, les traitements moins dispendieux à l'Avastin fonctionnent dans 80% des cas. Puis des fois, bien, quand on parle de handicap, de technologie, d'adaptation, bien, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que les adaptations vont aller un peu plus loin que simplement compenser pour un handicap. Par exemple, on peut soulever l'exemple de Oscar Pistorius qui, avec ses palmes qui remplaçaient ses jambes, lui qui a subi une double amputation, a pu courir aux Jeux olympiques de Londres. À un moment donné, on va se demander, est-ce que ces palmes-là vont devenir à un point perfectionné qu'elles vont être plus efficaces que les jambes dites normales utilisées par les bipèdes de tous les jours? Bien, un autre exemple de cette technologie-là qui peut compenser et même dépasser le handicap, c'est l'implant cochléaire. L'implant cochléaire, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est ce que les personnes sourdes ou malentendantes utilisent pour entendre des sons. C'est un créateur de sons. Eh bien, un article du journal, ou plutôt de l'agence QMI, du journaliste André Boily, titre « Cet implant auditif est directement connecté à un iPhone ». Donc, le fabricant Cochlear a conçu le premier implant pour iPhone qui permet de recevoir les appels vocaux du téléphone intelligent et d'écouter de la musique sans fil directement dans son oreille. Donc, l'implant cochléaire est un dispositif implanté destiné à stimuler des fibres du nerf cochléaire chez les personnes atteintes de surdité. Pour ces dernières, Cochlear Limited vient de lancer l'implant Nucleus 7 À la fois très compact et léger et doté de technologies sans fil, cet implant se loge donc derrière l'oreille. Disponible dès septembre en Amérique du Nord, le jumelage des implants cochléaires avec les téléphones intelligents n'était qu'une question de temps, le temps que la technologie soit au point. Sur le site de Cochlear, le fabricant estime à 360 millions le nombre de personnes qui éprouvent des ennuis de surdité. Un nombre qui est appelé à tripler d'ici 2050. Récemment approuvé par l'agence FDA américaine, cet implant permet de faire des appels, d'écouter de la musique en haute qualité stéréo et même de recevoir des appels FaceTime. C'est fou la technologie! Et j'ai le temps pour une dernière nouvelle qu'on a trouvée sur le site L'Hebdo Rive-Nord. C'est de la journaliste Olivia Ngunli. Une ceinture noire pour Julien et une source de fierté pour son père. C'est une belle histoire, en fait. Ça commence ainsi. S'il se rend à la ceinture orange ouverte, ça va déjà être très beau, se disait Ghislain Tremblay lorsque son fils a débuté ses cours de karaté. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, à force de travail et de persévérance, Julien vient tout juste de recevoir sa ceinture noire en karaté. Pour le jeune homme atteint de dyspraxie et d'une déficience intellectuelle légère, il s'agit d'un véritable exploit qui fait la fierté de la famille, on le devine bien. Dès son plus jeune âge, on nous avait dit qu'il ne marcherait peut-être jamais et qu'il ne saurait jamais lire ou écrire, ajoute M. Tremblay, subjugué par les progrès de son fils au fil des ans. Le jeune homme de 21 ans présente plusieurs diagnostics, dont un trouble envahissant du développement, mais c'est véritablement la dyspraxie qui constitue son plus grand défi au quotidien. La maladie se traduit pour Julien en des difficultés avec tout ce qui a trait à sa motricité fine et avec le fait de devoir se situer dans l'espace spatial et temporel. Il a aussi des défis à relever au niveau de sa mémoire limitée pour certains aspects de la vie courante. Il adore les jeux vidéo, particulièrement ceux de hockey, et il connaît les noms des joueurs par cœur. Toutefois, quand il fait son stage au dépanneur et qu'il fait le ménage des tablettes, il peut lui arriver d'oublier où était placé l'article initialement, et le karaté l'a beaucoup aidé dans sa progression. Félicitations à ce jeune karaté... Est-ce qu'on dit un karaté? Merci Mathieu, toujours là pour me sauver la vie. Maintenant, ceinture noire... C'est ce qui conclut les nouvelles de la journée, puis on va passer maintenant à la première entrevue de la journée. On va apprendre à se connaître tout au long de la saison. Là, c'est déjà la troisième fois que je remplace Clotilde à son micro. Puis vous savez peut-être pas que je suis beauceron et que je suis originaire de la belle région de Chaudière-Appalaches. Donc c'était une belle surprise pour moi de voir qu'on allait s'entretenir aujourd'hui avec Sarah Moore, qui est conseillère en communication et relations publiques pour l'organisme Tourisme Chaudière-Appalaches. Elle est au bout du fil. Bonjour Madame Moore.
Bonjour, M. Breton.
Est-ce que vous passez un bel été en Chaudière-Appalaches?
Ah oui, vraiment un bel été, plein de beaux coups de cœur, plein de beaux endroits à visiter. J'arrive tout juste d'une inauguration pour un nouveau tronçon de piste cyclable dans le secteur de Lévis, donc toujours des nouveautés puis plein de choses à faire.
Oui, ben moi, je suis déjà vendu, en fait, à la Chaudière-Appalaches. Je sais déjà que c'est une région magnifique, mais pour les gens qui la connaissent peut-être un peu moins bien, on vous a préparé une liste de choses à visiter qui est accessible, d'ailleurs. Par ailleurs, il faut souligner que l'organisme qui roule fait vraiment un bon travail de répertorier dans toutes les régions administratives du Québec des lieux accessibles à visiter. Un que je connaissais pas, même si je suis originaire du coin, c'est la route des navigateurs.
Ben oui, effectivement. Souvent, ben moi aussi, je suis native de la Beauce, comme toi. Alors, je trouvais ça. C'est sûr que des fois, on reste dans notre coin, puis tout ça, puis on connaît moins la Chaudière-Appalaches au complet. On s'identifie peut-être moins à certains secteurs, mais la route des navigateurs, en fait, ça couvre Chaudière-Appalaches, mais aussi le centre du Québec et le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est la route 132 que vous connaissez peut-être, qui est vraiment officiellement signalisée depuis quelques années, route des navigateurs. Donc, c'est facile à suivre. C'est vraiment une route là, avec des vues vraiment c'est magnifique sur le bord du fleuve Saint-Laurent.
Oui, ça dépasse, parce que c'est 470 km en tout, là, ce chemin.
Oui, à peu près, là, j'ai pas le chiffre par cœur, près de 500. Mm-hmm. Donc, c'est ça, on peut faire plusieurs régions, là, en fait, trois qui sont officiellement. Ça commence dans le Bas-Saint-Laurent, puis les deux autres régions se sont greffées au projet. Et puis, on a une belle, c'est sûr qu'il y a une belle carte que vous pouvez suivre avec différents, différents arrêts qu'on propose. Puis, il y en a plusieurs qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, tout ça. Et j'ai envie de vous en présenter peut-être
oui,
quelques-uns.
Certainement.
Dans le secteur de Lévis, je ne sais pas si vous savez dernièrement, tout ce qu'ils ont fait avec le secteur de la Traverse, avec le Quai Paquette, magnifique, les fontaines, avec les fontaines d'eau, tout ça, tout ce secteur-là. Et puis, vous avez tout près le lieu historique national du chantier AC Lévis. Qui propose une visite là, super intéressante. Et dans le culturel, là, si vous intéressez à l'histoire du chantier, qu'est-ce qui s'est passé un peu avant, mais tout ce secteur-là est à visiter. Vous avez aussi, je suis allée justement cette semaine, en début de semaine, et puis il y avait un kiosque pour du chocolat favori, donc on en profite, on peut manger une crème glacée, se promener juste et regarder évidemment la plus belle vue sur Québec, sur le château Frontenac. Tout ça, c'est ça le point fort là, de venir se détendre puis de regarder la magnifique vue.
C'est à partir de là, donc, la plus belle vue sur Québec, elle est là?
Ben, je dirais que c'est assez... La terrasse de Lévis, ce secteur-là, là, je dirais que c'est une très belle vue, là. C'est impressionnant, là. Ça
c'est
vaut
sûr
la peine.
On prêche toujours par sa paroisse, mais je vous crois. Mais quand on dit que c'est un lieu qui est accessible aux visiteurs à mobilité réduite, on parle de quoi, en fait? C'est que les infrastructures sont dotées de rampes d'accès, par exemple?
Oui, ce qu'on mentionne, accessibilité pour les gens... ça me dit partiellement accessible, c'est peut-être pas tout le secteur d'interprétation du musée, mais je sais pas exactement chacun des...
Souvent,
des
quand on entend partiellement accessible, ou en tout cas le libellé que Kiro l'utilise, c'est que parfois, il y a une rampe, mais la rampe, elle est abrupte, donc c'est nécessaire d'avoir un accompagnateur.
Oui, je crois qu'il est nécessaire d'avoir un accompagnateur. Là,
pour les personnes qui sont peut-être moins en forme, ouais. des fois, c'est des chemins de terre, donc c'est plus difficile de circuler, mais habituellement, ça devrait pas vous empêcher quand même d'avoir une belle expérience à ce coin-là. Vous m'avez parlé de musées. Ils portent sur quoi, en fait, ces musées?
Oui. En fait, là, vous avez l'histoire du chantier AC Lévis, qui était les bateaux, la construction des bateaux, les gros bateaux, tout ça, à l'époque. Donc, on vous raconte un peu l'histoire, tout ça. Il y avait aussi les scaphandriers, tout ça. Il y a plein de petites anecdotes intéressantes. Donc, c'est certain que sur la route des navigateurs, il y a des thématiques, justement, maritimes, tout comme le musée maritime du Québec, qui est vraiment axé aussi sur l'époque marin, qui est à Lillet. On va un petit peu plus loin, là. Si on continue sur notre route des navigateurs, sur la 132, qui est aussi intéressant avec deux bateaux musées que vous pouvez voir. C'est sûr qu'ils ne sont pas accessibles pour les visites à l'intérieur, mais le musée à l'intérieur avec des expositions temporaires et permanentes là, sur différents sujets, là, c'est accessible.
Et sans obstacle.
Oui, effectivement. Puis vous avez, j'avais envie de parler de l'île aux grues.
Oui, je m'en allais là, justement.
Oui, OK. avec la traverse qui est accessible aussi, la traverse Montmagny et l'eau grue qui a même eu la route accessible. Là, je pense que c'est comme une petite coche de plus. Là, où,
ça fait partie des coups de cœur de Kiro, habituellement.
Okay, ouais. Les coups de cœur, c'est une petite coche, je ne sais pas. C'est pas clair, mais un très bel endroit à visiter, l'île aux grues, juste pour se détendre, relaxer, de faire le tour là, en véhicule. Il n'y a pas de problème. Moi,
je ne connais pas l'île aux grues. En fait, c'est dans le coin de Montmagny, c'est bien ça?
Oui, effectivement, la traverse se prend à Montmagny. C'est une demi-heure et puis vous vous rendez à l'île aux grues. C'est une des 21 îles et îlots de l'archipel de l'île aux grues, dont il y a la grosse île qui existe, mais il y a l'île aux grues qui c'est la seule île qui est habitée à l'année. Donc, l'hiver, les gens, ben c'est ça, il n'y a pas de bateau à l'année, mais l'hiver, les gens, ils vont en avion. Et puis même les écoliers ils vont à l'école à Montmagny, donc ils doivent prendre l'avion à tous les jours.
Oh wow!
Ouais, c'est particulier, il y a à peu près 135-140 habitants.
Donc l'avion l'hiver et l'été, ils peuvent utiliser les traversiers.
Oui, les traversiers, tout ça. C'est assez particulier.
Puis j'imagine que c'est un lieu là, où la nature est à son meilleur. Il y a sûrement beaucoup de parcs sur cette île.
Il y a la pointe de Riopelle, la pointe au Pin qui est un endroit justement pour faire un peu de randonnée. C'est ça, la nature. Oui, très présent. Il y a beaucoup de, c'est sûr qu'il y a un peu de chasse à l'automne, tout ça, mais c'est vraiment un endroit où, oui, on se détend, puis il n'y a pas nécessairement plein d'attractions sur l'île, mais c'est vraiment de prendre le temps d'arrêter, puis de respirer, puis de profiter du fleuve, coucher de soleil, tout ça. Il y a quelques expositions dans certains musées, mais de profiter là, d'aller un petit séjour. Ça peut être une journée à l'île aux grues, ça peut être très intéressant.
Excellent. Ben, il n'y a pas de raison de profiter des dernières semaines de l'été, du beau temps ou même de l'automne, en fait, qui reste à nous offrir pour aller faire un petit détour par la région de Chaudière-Appalaches. Je vous le conseille fortement. Merci beaucoup, Sarah Moore, et merci aussi de votre collaboration avec La Route Accessible. C'est très précieux hein, pour les touristes et même les gens du Québec qui veulent découvrir leur coin de pays, de pouvoir compter sur la collaboration de nombreux organismes qui ont un transfert de données et de connaissances et de savoir c'est où les lieux, en fait, qui sont les plus aptes à recevoir les clients à mobilité réduite.
Vraiment, puis allez visiter notre nouveau site Internet qui est tout récent, puis il y a 21 expériences, vous allez voir, on a, là présentement, il y a 16 vidéos.
Ouais, des genres de témoignages, c'est ça?
Oui, avec, oui, super, on en a justement un d'ailleurs de l'île aux grues, on va en tourner un sur le sentier Sibivi la semaine prochaine, donc il y a plusieurs, le musée maritime aussi, puis l'auberge des glaciers que je vous ai pas parlé, qui est aussi un coup de cœur de Kéroul à découvrir, donc il y en a plein de belles suggestions, puis suivez-nous sur les médias sociaux également, on est actifs. Merci. Oui. De nous proposer cette opportunité-là de faire découvrir les attraits là, dans la région.
Ça fait plaisir, Sarah. On donne le site chaudièreappalaches.com. C'est pas très compliqué. Sinon, kiroul.qc.ca. Effectivement, vous pouvez aller voir les petites capsules vidéo sur le site de Chaudière-Appalaches pour vous donner le goût de vous y rendre ces prochaines semaines. Encore merci à Sarah. On s'en va à une pause musicale et on revient tout de suite après. La musique de Dirty Laundry, un groupe américain que Mathieu vient de me faire découvrir. Toujours Kevin Breton au micro de M l'été. On s'en va rejoindre au bout du fil Agathe Tupoula-Kabola, notre chroniqueuse. Bonjour Agathe.
Bonjour Kevin.
Directrice générale et orthophoniste à la clinique ProAction. J'en parlais en début d'émission, en introduction. Moi, je disais que cette météo-là, avec la petite bruine qui tombe, puis le vent un peu froid qui laisse présager le retour de l'automne, ben moi, ça me fait penser à un souvenir particulier, puis c'est quand je magasinais des fournitures scolaires et des articles avec mes parents. Puis Mathieu me fait signe que lui aussi, il y a comme des souvenirs de même qui sont associés soit au temps ou aux odeurs. Puis il y a comme une odeur particulière en ce moment sur Montréal qui me fait penser à ça. Et ça tombe bien parce que c'est un peu le sujet de votre chronique aujourd'hui, Agathe. On va parler de l'arrivée à la maternelle, en fait, chez les jeunes enfants.
Oui, tout à fait. Plusieurs parents s'apprêtent à vivre leur première rentrée scolaire pour leur enfant qui s'apprête à entrer à la maternelle. Et puis, certains parents vont penser que la maternelle, c'est comme une année, si on veut, tampon avant la première année, une année où les enfants font plus jouer, puis il n'y a pas vraiment de prérequis. Donc, toutefois, il faut savoir que si un enfant fait son entrée à l'école avec des lacunes au niveau du langage qui n'ont pas été dépistées à la maternelle, ça peut être difficile de rattraper le niveau des pairs par la suite. Donc, déjà, avant l'entrée à l'école, on peut s'assurer, vérifier que notre enfant a déjà certains prérequis au niveau de ses habiletés langagières.
On parle de quoi quand on parle de lacunes sur le plan langagier? C'est par exemple des bégaiements ou...
Par exemple, un enfant qui a un faible vocabulaire pour son âge ou qui a du mal à formuler des phrases complètes, donc juste avant d'entrer à la maternelle, un enfant qui va souvent chercher ses mots ou qui n'est pas facilement compris par des gens qui sont moins familiers. Un enfant pour qui les parents vont souvent servir d'interprète parce qu'ils ont du mal à prononcer plusieurs sons.
Mais est-ce qu'on pourrait pas penser justement que cette année de tampon dont vous parliez sert justement à l'élève à le préparer, à développer son vocabulaire en vue de la première année?
Tout à fait. En maternelle, en fait, il y a beaucoup d'apprentissages qui se font. Donc, c'est une année effectivement qui sert à préparer l'enfant pour la première année. Mais en fait, c'est que même avant la maternelle, juste avant la rentrée, il y a certains signes qu'on peut surveiller, voir si notre enfant a un langage qui se développe bien. Pour vous donner des exemples, normalement, un enfant qui s'apprête à entrer à la maternelle, on s'attend qu'il soit capable de se concentrer sur une histoire courte, qu'il se souvienne des idées principales d'une histoire qu'on va lui lire à la maison, par exemple. Donc, un enfant qui s'apprête à entrer à la maternelle aussi devrait être en mesure d'exécuter une consigne qui est plus longue sans qu'on ait à répéter plusieurs fois la consigne ou sans avoir d'indices visuels.
Puis si on se rend compte qu'effectivement, notre enfant a peut-être la difficulté à suivre des consignes un peu plus longues, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à arriver à sa classe de maternelle et à être au même niveau que ses camarades de classe?
En fait, je dirais la première chose, c'est de ne pas hésiter à consulter un orthophoniste. Donc, on peut en parler à son médecin si on a des inquiétudes au niveau du développement langagier de son enfant ou se référer au site de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec pour consulter en privé. Donc, puis l'orthophoniste, c'est le professionnel qui va être en mesure d'évaluer le langage de l'enfant puis de le situer par rapport à celui de ses pairs, à savoir si c'est dans la norme ou s'il y a accusé un retard ou des difficultés.
J'imagine que ça doit quand même être difficile parce qu'on veut toujours avoir le meilleur pour son enfant, puis il y a peut-être un danger de devenir un petit peu paranoïaque, là, puis se dire est-ce que mon enfant a un trouble du langage ou non? Est-ce que vous avez des trucs à donner pour déceler si c'est vraiment un trouble du langage ou si c'est juste que l'enfant est dissipé parce qu'il a hâte d'aller jouer avec ses amis, par exemple?
Mais c'est une très bonne question, puis c'est pas évident de faire la différence pour les parents. Par contre, pour vous donner certains repères développementaux, un enfant qui a 5 ans, c'est normal qu'il transforme encore certains sons dans les mots, mais en général, il se fait bien comprendre par la majorité des gens, même par des adultes non familiers. Des sons qui peuvent être transformés à 5 ans, ben un enfant qui zozote, qui parle sur le bout de la langue, c'est quand même commun, puis il faut pas s'alarmer pour ça.
OK.
Certains mots avec des consonnes doubles, par exemple tracteur, spectacle, c'est normal que des mots comme ça puissent encore être transformés. Toutefois, le langage de l'enfant de 5 ans, ça ressemble pas mal à celui d'un adulte en termes de longueur de phrase. Donc, un enfant de 5 ans peut faire des phrases complexes qui vont ressembler à celles de l'adulte avec des erreurs occasionnelles, comme des fois on peut entendre l'enfant de 5 ans qui va dire « ils sont » au lieu de « ils étaient ». Mais en général, il va maîtriser la conjugaison des temps de verbe qui sont les plus fréquents, puis les différents mots grammaticaux aussi, comme les pronoms, le « je », le « tu », le « il » et le « elle ». L'enfant va pouvoir les distinguer aisément, normalement.
Et j'imagine que la meilleure manière d'en arriver à ces conclusions-là ou de tirer ses propres conclusions avant de visiter un professionnel, c'est d'avoir des discussions, de parler avec son enfant, c'est sûrement la meilleure méthode.
Tout à fait. Vraiment échanger régulièrement avec son enfant, par exemple, lui demander qu'est-ce qu'elle fait durant la journée à la garderie ou à son camp de jour. Mm-hmm. Normalement, un enfant qui s'apprête à entrer à la maternelle peut raconter des événements, des faits vécus, des événements décontextualisés, raconter sommairement une activité qu'il a aimé faire durant la journée avec des phrases complètes. Donc, c'est possible normalement d'avoir une conversation plus longue et détaillée, même à cet âge-là, avec son enfant.
Puis ça va leur permettre également, je suppose, de développer leur vocabulaire. Est-ce qu'il faut avoir peur de trop vouloir apprendre des nouveaux mots à ses enfants? Est-ce qu'il y a comme un rythme ou un débit à respecter ou si le cerveau de l'enfant peut en prendre tant qu'il peut?
Bien, en fait, une méthode assez simple pour montrer du nouveau vocabulaire à son enfant sans vouloir faire des exercices académiques à la maison, c'est pas ça l'objectif, mais le simple fait de lire des livres. Mm-hmm. Lire des livres régulièrement avec son enfant, l'amener à la bibliothèque ou aller voir le croque-livre le plus près de la maison, voir qu'est-ce qui s'y trouve. Donc, raconter des histoires souvent aux enfants, c'est une méthode très efficace qui a fait ses preuves pour enseigner des nouveaux mots de vocabulaire. Puis d'ailleurs, les études démontrent qu'un enfant à qui on a fait régulièrement la lecture avant la maternelle, souvent, ils partent avec une longueur d'avance rendue à l'école.
Ouais, parce que, puis on va terminer là-dessus, mais j'imagine que tout ce travail de préparation-là dont on fait part aujourd'hui, puis les conseils que vous donnez, c'est doublement utile dans le sens où si l'enfant se rend à la maternelle avec les capacités langagières qui sont inférieures, ça peut être très difficile, je suppose, pour leur estime personnelle.
Oui, tout à fait. Exactement.
Parce que de voir des collègues qui ont peut-être un meilleur vocabulaire, qui sont plus facilement capables de communiquer avec leurs enseignants, on veut pas ça pour notre enfant, là.
Tout à fait, exactement. On veut que notre enfant préserve une bonne estime de lui-même, qu'il ait confiance en lui, puis qu'il puisse être en mesure aussi de socialiser avec les amis dans son groupe.
Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Agathe. On va rappeler également le site web de votre clinique, cliniqueproaction.com. Merci beaucoup pour ces précieux conseils en souhaitant à tous et à toutes, soit à vous ou aux parents qui préparent leur enfant pour un retour à l'école, un très beau retour sur les bancs scolaires. Puis on souhaite aux tout-petits d'avoir beaucoup de plaisir et de réussir à s'épanouir dans leur classe.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Bonne journée.
Et nous, on s'en va maintenant à un petit intermède musical, puis on sera de retour après pour la deuxième demi-heure de cette émission. Toujours Kevin Breton au micro pour M l'été en remplacement de Clotilde Say, je vous l'ai dit. On va apprendre à se connaître dans ces prochains jours et ces prochaines semaines. Ben, un trait de caractère chez moi, ben, c'est mon amour pour le sport. Donc, ça va arriver peut-être plus souvent qu'à l'habitude que je vais vous donner des nouvelles de l'actualité sportive. Et une nouvelle qui est fraîche du jour dont je devais absolument vous parler concerne le sport du boccia. Je ne sais pas si vous connaissez, mais un sport qui ressemble un peu à la pétanque, en fait, où on doit propulser des boules sur le sol pour aller chercher un maximum de points, et c'est un sport paralympique. Et au Canada, bien, on est assez doué en la matière, on fait toujours bien sur la scène internationale. Et aujourd'hui, bien, on a appris que Marco Di Spaltro et Alison Levine, qui sont deux athlètes du Québec, ont mis la main, ça vient tout juste d'arriver, sur la médaille de bronze en duo. C'était au championnat régionaux des Amériques qui était disputé en Colombie. Cette victoire assure également une place pour le Canada à la compétition en duo au championnat du monde de 2018. Donc, pour en apprendre un peu plus, je vous lis le communiqué qui vient de sortir du Comité paralympique canadien. Di Spaltro de Saint-Jérôme et Levine de Montréal ont amorcé la journée avec une défaite en demi-finale face aux Colombiens et favoris de la foule pour ensuite se mesurer aux Mexicains dans le match pour la médaille de bronze. Selon Levine, c'était l'occasion parfaite de se racheter après une défaite contre ce même duo la veille en ronde des poules. Il s'agissait de la seule équipe qui nous avait battus en poule, alors nous avions faim et nous voulions avoir notre revanche contre le Mexique dans l'affrontement pour le bronze. Nous avons fait ce que nous avions à faire et nous avons terminé sur une bonne note. À la fin du premier bout, le Mexique a réussi un long lancer qui s'est retrouvé dans un coin de fond de terrain, suivi d'un lancer marquant tout près du jack. L'équipe canadienne a réagi fortement en défense pour limiter les Mexicains à un seul point. Au deuxième bout, Dispaltro a réussi un beau placement sur le jack. Les Mexicains se sont faufilés devant Dispaltro à leur premier lancer, sauf que Levine a parfaitement exécuté un puissant lancer pour atteindre le fameux jack, s'assurant du point en plus supplémentaire en éjectant la balle mexicaine hors de la zone payante. Le Mexique avait joué toutes ses balles mais ne pouvait donc plus passer. Cette situation a laissé le Canada en bonne position pour marquer avec encore deux balles à jouer et Levine a effectué un autre tir puissant pour assurer trois points à son équipe à la fin du bout. Comme je le mentionnais tout à l'heure, cette victoire va permettre au Canada de se rendre au championnat mondiaux. Félicitations à nos deux athlètes du Québec. Là, on sait que Marco Dispaltro, c'est maintenant une légende dans le milieu du boccia au Canada. Puis il a pris sous son aile la jeune Allison Levine. Marco Dispaltro qui a pratiqué plusieurs sports paralympiques dans sa carrière, notamment du basketball en fauteuil roulant et également de l'escrime en fauteuil roulant. Il y a également la saison de baseball qui bat son plein en ce moment. On s'en va tranquillement vers les séries. Les Blue Jays sont au cœur de cette course vers les séries dans la Ligue de majeure de baseball. Mais si je vous dis les Blind Jays, une autre équipe de baseball à Toronto, donc les jets aveugles, comme on pourrait traduire, c'est un club qui existe et j'ai appris l'existence de ce sport du baseball pour personnes aveugles ou malvoyantes aujourd'hui. Et il y a même un championnat qui va avoir lieu en Floride dans les prochaines semaines et le Canada sera représenté par une équipe. Donc, comment ça fonctionne, c'est que la fameuse balle qu'on utilise comme au baseball traditionnel, elle est un petit peu plus grosse et elle émet des sons une fois qu'on enlève une pin, un peu comme sur une grenade, ce qui permet aux lanceurs, aux receveurs et aux batteurs de savoir où elle se trouve. Et pour ceux qui connaissent le baseball, il y a comme un diamant avec les différents buts qu'il faut parcourir après avoir frappé un coup. Il y a un son qui est émis, une sorte de buzz, un peu comme par exemple des feux sonores lorsqu'on veut traverser la rue, qui permettent aux coureurs de savoir où se rendre. Si vous voulez aller sur le site de chronicleherald.ca, je suis sûr que Aube, à la mise en ligne, va pouvoir mettre le lien sur le site de Vues et Voix. Il y a une vidéo de disponible où on voit comment ce sport est joué. C'est vraiment spectaculaire de voir les différents joueurs se tirer sur le terrain pour capter des balles et réussir à faire des coups, des retraits au bâton, je devrais dire, plutôt. Donc, effectivement, le Canada va donc pouvoir se rendre au prochain championnat qui va avoir lieu en Floride et on leur souhaite la meilleure des chances. Et on sort maintenant du sport pour vous lire un communiqué que j'ai trouvé depuis hier, un communiqué du gouvernement du Canada sur l'employabilité. On sait que les personnes en situation de handicap vivent encore en 2017 en moyenne sous le seuil de pauvreté et que c'est souvent bien difficile pour eux d'intégrer le marché du travail. Il y a des mesures qui sont instaurées ici et là, que ce soit à l'échelle provinciale, fédérale ou même à l'échelle locale, pour permettre à ces personnes de se trouver un emploi, voilà une nouvelle initiative. Quand les jeunes du Canada obtiennent la formation et l'expérience dont ils ont besoin pour décrocher et garder un bon emploi, notre classe moyenne s'accroît et notre économie prospère. Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Patty Aldjou, a annoncé que le gouvernement du Canada fournira un financement pour aider 220 jeunes handicapés à surmonter les obstacles à l'emploi ou à retourner aux études. En effet, le projet « Mon emploi sur mesure » de Sphère Québec recevra plus de 2,8 millions de dollars de la part du gouvernement du Canada au titre de son programme Connexion compétences. Dans le cadre de ce projet, les jeunes auront l'occasion de participer à des séances adaptées à leurs besoins. Entre autres choses, des ateliers pratiques sur la planification, les communications et le travail d'équipe permettront aux participants d'améliorer leurs compétences essentielles. Les participants recevront également une formation interactive sur les pratiques exemplaires reconnues en matière de recherche d'emploi, de rédaction de curriculum vitae et de présentation aux entrevues, ainsi que sur la technologie numérique. Ce projet offre également aux jeunes l'occasion d'acquérir une précieuse expérience de travail dans les secteurs du commerce de détail, des services alimentaires, de l'entretien, de l'accueil et du tourisme. Il est très important pour notre gouvernement de donner à tous une chance réelle et égale de réussir en investissant dans les jeunes afin qu'ils soient bien outillés pour faire leur entrée sur le marché du travail. Nous leur apportons donc une contribution positive et eux apportent également une contribution à la collectivité. Il nous reste encore un invité à cette émission aujourd'hui. On va se rendre en musique et tout de suite après, on va discuter avec Anne Évrard, qui est spécialiste en orientation et mobilité en déficience visuelle au CIUS de la Mauricie du centre de Québec. Hein, c'est dans le coin de Trois-Rivières. Une émission où on se promène un petit peu en région puis on aime ça comme ça. On s'en va en musique et on revient tout de suite. Kevin Breton, toujours au micro de Aime l'été. Ben, je l'ai dit tout à l'heure, on s'est promené en Chaudière-Appalaches et maintenant, on va faire un petit tour du côté de Trois-Rivières pour entrer en communication avec Anne Évrard, spécialiste en orientation et mobilité en déficience visuelle au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Bonjour, Madame Évrard.
Bonjour, M. Breton.
J'espère qu'il fait plus beau dans votre coin qu'à Montréal parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu déprimant, la météo.
Alors, je tourne vers notre fenêtre, mais le ciel est quand même gris et on a quand même de la pluie aussi.
Donc aujourd'hui, eh bien, on est entré en communication avec vous pour vous parler des groupes L'Éclaircie qui sont offerts en fait au CIUS, qui sont en fait des groupes de soutien pour les personnes qui sont confrontées à une nouvelle qu'on ne veut pas nécessairement obtenir, mais dont la récurrence est de plus en plus fréquente avec l'avancement de la population et son vieillissement, c'est-à-dire la perte de vision. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi les principales angoisses qui vont traverser une personne qui va recevoir un diagnostic de dégénérescence maculaire ou d'autres types de maladies de l'œil?
C'est sûr que apprendre qu'on perd de la vision, c'est se dire qu'on va devoir faire une série de deuils dans la vie quotidienne. Ça va souvent aller par la perte du permis de conduire pour beaucoup de gens. Ça va être aussi surtout par rapport justement à la dégénérescence maculaire dont vous parlez. Ben, l'accès à la lecture, l'écriture, ça pose problème, mais même des petits gestes de la vie de tous les jours, tels que cuisiner, tels que faire son lavage, aller à la banque, ça va poser vraiment en effet des problèmes. Donc, c'est là où nous, les services de réadaptation, on essaie de mettre en place des propositions de stratégie, puis éventuellement enseigner des aides techniques pour leur donner quand même les moyens pour reprendre une vie, je dirais, la plus autonome, malgré la déficience visuelle.
Oui, parce qu'effectivement, c'est une série de deuils, puis effectivement, quelque chose qui revient souvent ou qui est souvent nommé parmi les personnes qui sont atteintes d'une déficience visuelle, c'est la perte du permis de conduire. C'est un deuil important. Celui-ci est plus difficile à faire, mais quand on pense à d'autres types de deuils comme celui de la lecture, ben, il faut comprendre qu'avoir une perte de vision, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus accès à la littérature, là.
Exactement. Et puis surtout, il faut bien entendre que lorsqu'on reçoit le diagnostic, ça ne veut pas dire qu'on va devenir aveugle. Même s'il y a le terme de dégénérescence, on a quand même une très, très grande majorité de personnes qui sont inscrites ici dans les programmes de réadaptation en déficience visuelle qui ont un résidu visuel et qu'on va sûrement essayer d'explorer pour qu'ils puissent l'utiliser de manière optimum. Donc, beaucoup de gens pensent qu'ils vont devenir aveugles et je dirais la chance, c'est qu'il y en a très peu en réalité qui tomberont vraiment dans la cécité totale. Mais c'est ça. Donc nous, par rapport à la lecture, entre autres, au travers de ces groupes de l'éclaircie, on va déjà leur donner des petits moyens, des stratégies pour éventuellement déjà avoir un meilleur accès à la lecture. En fait, ces groupes n'est qu'une première partie, je dirais, c'est le début de l'apprentissage, de la réadaptation qu'on leur donnera par après de manière plus en individuelle. Mais le principe de ces groupes L'Éclaircie, c'est vraiment de pouvoir répondre assez rapidement aux besoins des personnes en les faisant revenir une fois. En fait, on les invite deux fois sur un mois, deux groupes qui vont être partagés par le premier groupe, ce sont des demi-journées. Et le premier groupe, c'est ça, on va présenter nos services, on va un petit peu expliquer c'est quoi le fonctionnement visuel quand on a des atteintes au niveau de la vision.
Mais est-ce que ces groupes de travail-là, est-ce qu'à la suite d'un diagnostic, quand le médecin, quand la nouvelle tombe, est-ce que c'est automatique que ces gens vont s'inscrire ensuite à ces groupes de l'éclaircie ou s'il doit avoir des démarches personnelles qui doivent être entreprises?
Exactement. Donc, en fait, ça, c'est clair. Là, j'ai peut-être sauté une étape. Vous avez raison. Le médecin ou l'optométriste va en effet relever qu'il y a un problème au niveau de l'acuité visuelle, au niveau du champ visuel, ou éventuellement les habitudes de vie peuvent être perturbées si on a un diagnostic qui peut être dégénératif. Et à ce moment-là, en fait, c'est la personne ou le proche de la personne qui va devoir faire le premier pas en se renseignant au niveau du guichet d'accès des services qu'on peut proposer ici au CIUS. Alors, ils doivent appeler, il y a un numéro de téléphone évidemment. Ils doivent envoyer le rapport du médecin ou de l'optométriste. Et là, en fait, il y aura ce qu'on appelle un accueil psychosocial où on aura une analyse, une orientation et puis la référence dans les programmes qui va être donnée.
Parce que pire chose à faire, j'ai l'impression, quand on reçoit une nouvelle comme ça, c'est s'isoler. Parce que c'est quand on s'isole que là, la nouvelle devient plus terrible. On passe à côté de tous les outils qui sont mis à leur disposition. Puis on passe aussi à côté de l'expérience qui peuvent être partagées par les personnes qui vivent la même chose.
Exactement. Et ça, c'est vraiment le point fort de ces rencontres, l'éclaircie, c'est que il y a comme un soulagement de dire « mais je ne suis pas la seule » ou « c'est pas si pire que ça pour moi » quand ils rencontrent d'autres personnes qui, éventuellement, ont peut-être plus de difficultés. Mmh. Et ça, on ressent très, très fort à la fin de ces groupes, ce sentiment-là d'appartenance avec d'autres personnes qui ont aussi des difficultés, y compris aussi les proches qui ne se sentent pas tout seuls non plus d'avoir tout ça sur ce diagnostic et surtout les conséquences de ce diagnostic qui est souvent la perte d'autonomie. Donc, ce n'est pas évident pour les proches non plus.
De partager, alors, je suppose que ça permet de dédramatiser la situation, en fait. Puis, ça permet de faire circuler l'information, faire circuler des trucs. Mais à la base, est-ce que les spécialistes comme les optométristes et les médecins font un assez bon travail d'éducation pour référer les personnes à ces groupes de soutien-là? Parce que s'ils ne savent pas qu'ils existent, ben, c'est peine perdue.
Écoutez, en fait, oui, en effet, les ophtalmologistes sont au courant qu'il existe un centre de réadaptation en déficience visuelle. Il y en a un dans chaque, qui fait partie maintenant du CIUS. Donc, de toute manière, dans chaque région, on a un CIUS et dans chaque région, il y a un centre de réadaptation. C'est vrai que même si le médecin fait référence, peut-être les patients sont déçus par le fait qu'on ne leur parle plus de la lunette ou du médicament ou de l'opération qui va leur rendre leur vision comme avant.
Ouais.
Donc là, maintenant, c'est dire on va aller avec ce qu'on a et on va essayer de poursuivre notre vie. Donc il y a aussi l'étape pour la personne de dire, OK, je vais devoir accepter de dire qu'il n'y a plus un traitement miracle là maintenant pour améliorer ma vision. Alors oui, il y a eu, je dirais que moi je vois qu'il y a vraiment une évolution dans les références. C'est vrai que petit à petit, les choses passent et les gens sont au courant, en effet, que ce soit les optométristes ou les ophtalmologistes, que ces services existent. Mais on a encore eu quelques petits cas où éventuellement, ça a mis du temps avant que la personne fasse les démarches auprès de nos centres.
Mm-hmm. Puis là, c'est du temps qui pourrait être investi ailleurs parce qu'il faut également faire comprendre aux gens, par exemple, qui vont perdre la vision, qui tiennent beaucoup à leur lecture, que ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas lire un bon livre encore, que ce soit par format sonore. Des fois, les gens perdent la vision, se disent « OK, ben là, je dois faire le deuil de la lecture, ça va toujours devoir être mon mari » qui va me faire la lecture, mais pas nécessairement, là, parce qu'il existe quand même des livres en braille. Là, c'est peut-être un peu difficile d'apprendre le braille rendu à un certain âge, mais il y a des livres audio, par exemple.
Exactement. Il y a les livres audio, mais on a aussi, en fait, ça c'est nos spécialistes en réadaptation déficience visuelle, qui vont évaluer s'il n'y a pas même une aide optique qui pourrait aider la personne quand même à avoir accès à ce qu'on appelle des lectures ponctuelles, les revues ou...
Les circulaires, par exemple, pour les psys.
Les circulaires, exactement, ou le compte en banque ou des choses comme ça. Et puis alors, en effet, si ce sont des lectures plus longues et qui sont trop fatigantes pour la personne à utiliser une bonne loupe ou d'autres systèmes, mais c'est sûr que le moyen auditif, le moyen sonore est excellent aussi. Mmh.
Ou encore les fameuses télévisionneuses, là, des fois, qui servent bien.
Et alors, c'est ça, on a ces aides aussi qui existent. C'est sûr que lors de ce premier groupe de l'éclaircie, on ne va pas encore tout de suite leur donner ce matériel-là. Mm-hmm. Ce groupe d'éclaircie, c'est vraiment, on fait un petit peu un survol des services qu'on leur propose et on leur donne déjà des conseils, des stratégies qu'ils pourraient mettre en place avec ce qu'ils ont à la maison ou éventuellement ce qu'on peut même acheter en magasin pour améliorer leur vie. Alors moi, je vous parle de mon domaine, je travaille dans les déplacements, l'orientation et la mobilité. C'est sûr que je vais parler éventuellement d'une bonne lampe de poche. aussi, mm-hmm. en sortant de la voiture au mois de novembre, quand ils reviennent du restaurant, ils ont des difficultés à retrouver leur trottoir, les marches. S'ils ont déjà une bonne lampe de poche, ils pourraient éventuellement mieux se repérer et surtout ne pas trébucher sur les obstacles.
Mais je comprends tout à fait. En fait, parce qu'il ne faut pas minimiser l'utilité du soutien technique, mais effectivement, le grand avantage des groupes L'Éclaircie, c'est le soutien moral que ça apporte aux personnes.
Exactement. Donc, le fait de se retrouver ensemble, on a aussi un moment où il y a un témoignage d'une personne. Bon, on a ce témoignage en vidéo, là, mais c'est très parlant puisqu'elle parle beaucoup d'une personne qui est déficiente visuelle, qui est passée par nos services et qui explique un peu comment est-ce qu'elle a vécu ça. Puis c'est un très beau témoignage et en général, on a de super belles réactions après ce témoignage-là. Les gens sont plus ouverts à se parler aussi ensemble. Mmh. Alors, dans notre équipe d'intervenantes, on a quand même une psychologue et une travailleuse sociale qui font partie aussi de ce groupe L'Éclaircie et qui vont reprendre avec les personnes et leurs accompagnateurs un petit peu ce processus de deuil et faire un début évidemment d'approche d'aide et de soutien pour elles.
Et pour la preuve que ça fonctionne bien, eh ben chaque personne qui était au début réticente de participer à la première séance sont tous revenus pour la deuxième séance.
En tout cas, on en a plusieurs qui, oui, en effet, n'étaient pas certains parce qu'ils ne savaient pas très bien ce qu'ils allaient venir voir, écouter. Donc, ils venaient, ils étaient là parce que... Je peux vous dire que souvent, lors de la... Parce que donc, il y a une deuxième après-midi qui a lieu 2 semaines plus tard. On retrouvait ces personnes qui arrivaient beaucoup plus tôt que prévu. je pourrais dire à 95% du temps, un enthousiasme de la part des personnes. On a beaucoup de reconnaissance, qui est très agréable pour nous aussi, d'entendre les gens qui apprécient déjà cette première étape, parce qu'auparavant, ils étaient en attente. C'était des gens, même s'ils étaient inscrits à nos services, il y avait une liste d'attente assez importante avant qu'ils reçoivent des services. Mmh. Et là, on essaie de répondre assez rapidement, déjà par ce groupe-là. Et comme ça, ils ont une meilleure idée de ce qui va se passer par après aussi.
Coup de pouce.
Bon, oui, exactement. On les reverra par après en individuel pour vraiment donner les meilleurs conseils. Mais là, déjà d'avoir ces deux après-midi, on se rend compte que ça a vraiment diminué cette anxiété que les personnes auparavant vivaient avant de recevoir leur service.
Tout à fait. Là, je rappelle qu'on s'entretient avec Anne Évrard, qui, elle, est au CIUS de la Mauricie du Centre du Québec. Mais si vous nous écoutez et que vous êtes ailleurs au Québec, sachez que des groupes de ce genre-là, qui sont parfois organisés par INCA, par exemple, existent un peu partout. Donc, prenez le moment de vous informer auprès des CIUS de vos communautés respectives. Merci beaucoup, Mme Évrard, d'être venue nous parler aujourd'hui.
Ben, c'est un plaisir. Je veux simplement vous dire que nous, notre groupe, on s'est basé sur quelque chose qui se passait en effet à Québec aussi. L'IRDPQ, c'est eux qui ont lancé. Donc L'Éclaircie, c'est par eux aussi qu'on a eu les modalités de travail. Et donc, en effet, je confirme ce que vous avez dit, c'est que ça existe dans d'autres régions.
Tout à fait bien. Merci beaucoup encore une fois.
Merci beaucoup, M. Breton.
Puis bonne chance à tous les gens, en fait, qui vont devoir traverser cette épreuve-là et qui peuvent heureusement compter sur un soutien du genre. On s'en va un petit intermède musical et moi, il me reste encore quelques petites nouvelles en rafale. L'émission tire à sa fin, mais il me reste quand même le temps de vous donner quelques invitations. Tout d'abord, il y a les pluchettes de blé d'Inde annuel de l'organisme Vie Autonome Montréal qu'on a l'habitude de recevoir ici à Canalem qui va se tenir prochainement. Donc, la date limite pour s'inscrire à cet événement, c'est lundi prochain, lundi le 21 août. Donc, on rappelle, il va y avoir des épis de maïs, des délicieux hot dogs, tout ça au profit de Vie Autonome Montréal, ça va avoir lieu au lac au Castor du parc du Mont-Royal. C'est gratuit. Il suffit simplement de s'inscrire en téléphonant au 514-288-1177 ou encore par courriel à coord@commercialva-m.org. « Et si vous êtes un peu moins du genre hot dog comme moi et un peu plus du genre sport, ben vous pouvez également vous inscrire à une activité organisée par Karting Paintball Thetford, qui est située à Thetford Mine, et qui organise une grande journée sportive au profit de l'organisme Dystrophie Musculaire Canada. Ça va avoir lieu samedi prochain, le samedi 26 août. Pour l'occasion, plusieurs activités sauront satisfaire les plus petits et les plus grands qui seront là cette journée-là. C'est la deuxième année qu'Éric Vachon, directeur général de Karting Paintball Thetford, organise un événement au profit de l'organisme. L'an dernier, il avait organisé une course obstacle qui avait permis d'amasser 1 000 $ pour cette course. Et cette année, ben, son objectif a plus que doublé. Il vise à obtenir 2 500 $. Donc, on rappelle que ça va avoir lieu le samedi 26 août prochain. Et il va également y avoir la Distromarche. C'est une marche de 5 km sur une partie de la piste de karting qui va donner le coup d'envoi de la journée. L'accès à cette activité sera gratuit et ouvert à tous. Elle aura lieu entre 9h et 13h. C'est une course obstacle de 6,5 km qui va ensuite avoir lieu au coût de 40 $ par personne. C'est aussi possible de jouer au mini-pot lors de cette journée en déboursant un petit 5 $, taxes incluses. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez appeler au 418-332-5278, le 418-332-5278, ou encore en vous rendant sur kartingpaintball.thetford.ca. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné le goût de participer à ces activités-là. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Je remercie tous nos invités ou nos chroniqueurs. Je remercie également Clotilde et Sylvie pour la recherche et Mathieu à la technique pour avoir été à la mise en onde aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous. Je vous dis à vendredi prochain. J'ai déjà très hâte de vous voir. Et d'ici là, portez-vous bien.